Bonjour et bienvenue sur les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Les transformer ou les diluer, comme le dit si bien Camille Griselin, fondatrice de l'hypnose sagesse. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de faire en sorte qu'elles prennent moins de place en ajoutant d'autres croyances. Par exemple, je peux être timide, mais également avenante dans certaines situations. Nous sommes un tout, et les croyances ne sont limitantes que si elles prennent trop de place dans notre esprit. Je suis Anaïs et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Je travaille aujourd'hui pour des projets humanitaires et environnementaux à l'étranger, ce qui ne cesse de bousculer mes propres croyances héritées de mon éducation occidentale. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques ou vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, mon interlocutrice est une amoureuse de l'Amérique du Sud, continent sur lequel elle a effectué plusieurs stages, volontariat et job, et elle a également fondé l'association L'Abeille Asso, plateforme qui vous permet d'effectuer des volontariats au sein d'ONG et d'associations partout dans le monde, sans payer et en toute sécurité. C'est notamment par ce biais que j'ai eu l'opportunité de travailler au Brésil. Curieuse de tout, elle a également eu l'opportunité de voyager quasiment partout dans le monde, déjà très jeune. Il s'agit de Julie Degas. Julie, comment ça va ?
Ça va, merci.
Alors d'abord, j'aimerais connaître un peu ton histoire, car pour monter une telle plateforme d'entraide, cela requiert une bonne dose d'altruisme. Alors comment ce projet est né et d'où venait cette envie déjà d'aider très jeune ?
Ok. Du coup, c'est venu de... je faisais des études de commerce après mon bac. Enfin, j'ai fait un DUT, technique de commercialisation. Et en fait, j'ai fait du commerce parce que je savais pas quoi faire, mais j'avais quand même envie, enfin justement, de mettre au centre ce truc altruiste, en me disant que faire du commerce, ça pouvait aussi permettre d'aider l'autre, etc. Du coup, j'ai commencé par faire plein de stages dans du commerce équitable, et j'ai fait mon stage de deuxième année dans une association. Je suis partie en Inde aussi pour un stage international la première année quand j'avais 18 ans. Et je pense que du coup, ça a beaucoup joué sur mes envies, de m'engager dans le monde associatif et de créer un projet qui pouvait ressembler à ce à quoi j'aspirais à ce moment-là. Et ce à quoi j'aspirais, c'était que les étudiants puissent trouver des stages et des volontariats qui soient éthiques, solidaires, écologiques, sans qu'ils aient à payer des sommes astronomiques, en fait. Puisque moi, en faisant mes recherches de stages, à ce moment-là, je trouvais que sur des méga-plateformes qui demandent 1 500 € le mois pour partir à l'étranger et qui se servent de la pauvreté et du soi-disant humanitaire pour s'enrichir. Donc en fait, moi, le but, c'était de permettre à des étudiants de faciliter leur recherche de stage et de volontariat, puisqu'il y en avait plein qui avaient envie de s'impliquer, mais juste qui ne trouvaient pas le miroir, en fait, la structure idéale. Et de l'autre, des structures qui, elles, cherchent des volontaires, mais n'arrivent pas à en trouver, puisqu'elles manquent de communication. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire ce lien. Et donc après Tech Deco, j'ai pris 1 an justement de césure pour travailler dans un resto, me permettre de mettre des sous de côté et créer L'Abeille. Donc voilà, L'Abeille Asso, c'est né comme ça, de ce besoin de connexion entre les gens en fait, puisqu'il y a très peu de connexion éthique, on va dire. Voilà.
C'est ça, et alors comment tu arrivais justement à trouver les bonnes structures ?
Ouais, ça c'était... tout le souci, en fait, première partie du travail, c'est premièrement, je me suis dit, je veux aller sur place, donc aller vérifier toutes les structures. Je ne travaillerai pas avec une structure que je ne connais pas, parce que c'est trop facile à distance de vanter plein de mérites et de donner plein d'actions qui vont être faites aux volontaires. Mais en fait, c'est vraiment sur place qu'on se rend compte déjà de comment est l'association, du feeling aussi qu'on a avec la personne, puisque je pense que c'est que dans la vraie interaction qu'on se rend compte. Et puis, de rencontrer les gens aussi pour créer un vrai lien sur le long terme. Donc, je suis partie premièrement au Népal. Ce que je fais, c'est que je fais toute une base de données d'associations, d'entreprises qui peuvent rentrer dans les caractéristiques que l'abeille a pour cette pour toutes ces structures à mettre sur le site. Donc je les contacte, je prends rendez-vous avec eux et elles sur place et ensuite j'organise tout mon voyage comme ça. Donc où mes premiers voyages j'avais genre je sais pas 10 rendez-vous en 2 semaines à Calais. Donc je vais tout organiser comme ça. Et donc voilà, je suis partie au Népal, puis au Népal ça s'est super bien passé, de structure en structure on m'en donnait encore plus et tout le monde était très intéressé alors que le projet n'était pas encore né. Donc rien de plus motivant quand t'as un projet qui est pas là, qui est pas structuré, qui est pas né, que tout le monde te dise oui c'est bien et oui je veux travailler avec toi, je pense que t'en fais l'expérience en ce moment, c'est chouette en fait et ça motive. Donc après, 3 mois après, je suis repartie au Sri Lanka, en Indonésie, Max qui m'a aidé à co-construire l'association aussi, est parti au Sénégal et voilà, on a commencé à créer le projet comme ça.
Génial. Et alors, donc là, tu finançais tout ça grâce à les jobs que tu avais fait auparavant.
Ouais, c'est ça.
Parce que là, il n'y avait pas de structure de stage ou de... Donc là, c'était que sur un projet comme ça pendant des mois sans structure salariale ni sécurité.
Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est qu'au début, j'en voulais en faire un espèce de métier. Je m'étais dit que j'allais créer une entreprise. Et en fait, en me faisant aider par d'autres associations, puisque du coup, j'ai essayé de trouver de l'aide en France pour avoir des épaules sur lesquelles m'appuyer, parce que je connaissais rien en fait à ce monde, de solidarité entre guillemets. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que mon projet rentrait beaucoup plus dans les cases associatives que d'entreprise, et qu'au final, je voulais pas avoir cet aspect pécunier au centre tout le temps de mon projet. Donc je me suis dit, on va rester sur le truc associatif, comme ça, je vais pas être dans cette... dynamique de chercher du bénéfice, et du coup je vais en oublier le projet central qui était de faire du lien, et je vais le détruire. Et du coup je suis restée dans cette dynamique, donc j'ai travaillé dans un resto pendant 6 mois, je vivais chez mes parents à l'époque, donc au moins j'avais pas de frais en fait de logement, et puis ça m'a permis d'économiser, donc je suis partie comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'abeille est toujours pas forcément indépendant financièrement. Moi, je gagne aucun argent avec l'abeille, juste ça nous permet de rembourser quelques frais quand même qu'on a quand on part à l'étranger, donc c'est assez chouette. Ça a ses avantages. Mais voilà, le but de l'abeille, ça n'a jamais été en fait, de créer de l'argent, vraiment, et de, en tout cas, se l'approprier. Donc, tout l'argent qu'on récupère, comme une association, il est au centre de l'asso, et il sert pour les projets de l'asso.
Vous êtes quand même subventionné, hein, ce que tu me disais en antenne.
Pas spécialement. En fait, on a eu quelques subventions, donc de la Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde, de quelques prix comme ça, mais en fait, depuis un an, on n'a rien. Et puis en fait, c'est pas parti pour avoir plus de subventions, je pense. Parce qu'en fait, quand tu es une petite association, tu captes énormément de ressources au début, surtout quand tu es jeune, parce que tu as un nouveau projet, que c'est neuf, que c'est génial. Donc ça plaît, les gens ont envie d'investir. Au bout de 3 ans, même si le projet au final remplit complètement ses objectifs, et du coup c'est super, en fait, il est encore mieux qu'il y a 3 ans le projet, donc il devrait avoir encore plus de subventions. Non, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, on va privilégier des projets nouveaux, du coup pour les soutenir, mais aussi pour ce truc d'image en tant qu'institution, en se disant « Ah voilà, nous on supporte ci et ça, il y a du... on crée quelque chose, on crée de la valeur, on crée du nouveau, enfin c'est ça, c'est accumuler des projets. » Et du coup, ce qui fait que l'abeille, nous on n'est plus du tout valorisé, parce qu'on commence à être moins jeune, plus de 25 ans, plus de 3 ans, on fait moins de projets, on reste assez stable sur le même truc. Donc là, si tu crées pas encore un truc pour leur montrer que tu fais et que t'es... Bref. Donc on a moins de subventions. Mais on a heureusement des adhésions d'étudiants qui nous permettent d'avoir des fonds. C'est 20 euros l'adhésion, du coup, pour la vie. Et là, ça nous permet de soutenir la situation. Donc merci aux étudiants.
Super, génial. Et alors, justement, pour construire l'abeille asso, j'imagine que ça demande de faire confiance, autant les volontaires qu'en les structures. Et as-tu pu ressentir des peurs par rapport à ça et comment tu les as gérées ?
Alors au début, moi surtout, c'était plutôt dans la création d'un projet où j'ai eu des peurs de me dire je laisse des études ou en tout cas je laisse des projets de côté pour me concentrer sur ça et me donner... Enfin, c'est pas facile en fait de se dire on prend des mois et des mois de sa vie et de l'argent pour peut-être quelque chose qui ne va rien donner. Donc ça, c'était dur à gérer. J'ai eu vraiment des moments où j'ai voulu arrêter. L'autre difficulté, ça a été les structures avec lesquelles je travaillais au début parce que en fait, en Asie, évidemment... on n'a pas forcément le même rythme, en tout cas de réponse. voilà. Donc j'avais pas de réponse. Enfin, j'ai déjà vu des structures qui étaient super emballées par le projet, mais j'avais plus de réponse encore 2 mois après, alors que je leur demandais des papiers, juste de me remplir des choses. Et ça a été hyper démotivant, en fait, que ça suive pas de ce côté. Puis finalement, ça a suivi. Et voilà, donc sur ce truc de... En fait, tu te laisses très vite démotiver parce que les autres font pas. puisque ça doit faire partie intégrante de ton projet. Et du coup, ça a été essayer de pallier ça en me disant, voilà, c'est pas grave, t'as ton objectif, si ça doit arriver, ça va arriver, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu ça. Et après, j'ai pas eu tant de peur au niveau des volontaires. En fait, j'étais plutôt sûre de l'endroit où je les envoyais. Pareil pour les structures. Moi, je fais juste une connexion, donc en vérifiant cette connexion et cette relation, je fais mon travail et j'ai l'impression que du coup...
Mais c'est déjà arrivé que tu dises à cet étudiant-là, je sais pas...
Les étudiants, oui, alors j'ai deux cas. T'as les structures d'un côté où moi j'ai dit oui, je les ai acceptées dans la plateforme parce que pour moi, elles me semblaient justes. Et j'ai eu des retours de volontaires sur place qui me faisaient... deux, trois fois des retours d'expériences qui s'étaient pas bien passées. Surtout au début parce que je pense que j'ai peut-être trop dit oui à des structures que maintenant j'accepterai jamais parce qu'avec l'expérience on se forme et tout. Donc ça a été un peu dur pour moi en me disant mince, en fait j'ai un peu gâché une expérience de quelqu'un qui voulait quelque chose de bien et ça s'est mal passé. Donc ce côté de ces structures. Et après des volontaires, j'ai pas eu de mauvaises expériences de volontaires qui ont mal fait les choses sur place. Mais ce qui me fait peur, c'est quand j'envoie des personnes qui, je sais pas, candidatent et candidatent d'une manière hyper générale, sans s'adresser directement au projet, sans montrer exactement de la motivation, en disant des choses très générales aussi, qui généralisent ce qu'est le monde du développement et de l'humanitaire, et qui amènent une vision un peu colonialiste de genre, moi j'ai de l'argent, moi j'ai étudié, donc je sais ce que je veux. Enfin, pas je sais, mais j'arrive avec une connaissance, quoi. Et du coup, il y a ce biais colonial, je pense, en fait, qui est super dur, soit avec les étudiants jeunes, puisque je pense que moi aussi, peut-être à 18 ans, 19 ans, j'avais ces trucs, mais c'est inconscient, en fait, c'est juste qu'on apprend depuis qu'on est jeune, quoi. C'est culturel. Donc, voilà, il y a ce truc. Après, c'est pas moi qui choisis les étudiants, moi, je connecte. Et puis, c'est les ONG, les entreprises qui choisissent qui ils vont recevoir.
D'accord.
Donc, voilà. À partir du moment où je leur envoie la candidature et que l'ONG ou l'entreprise accepte, je pense que c'est leur façon de gérer les choses aussi, quoi.
D'accord, très bien. Oui, je comprends. Et justement, alors, comment tu percevais le monde et plus particulièrement donc, les pays que tu as découverts avant d'entamer tous ces voyages ou avant tes études ? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'avant-après de ta conception du monde ?
Ouais, clairement. La première fois que je suis partie en Inde, alors là, c'était pour une expérience de volontaire, enfin de stage, donc avant de créer l'association, j'avais du coup une vision hyper, un peu misérabiliste du monde, du tiers-monde. Enfin, voilà, c'est des mots forts, en fait, qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. Le monde en développement, sous-développé, tiers-monde. Donc tiers-monde, ça veut dire quoi ? Que c'est pas un monde qui appartient à la chose centrale, mais qui est tiers. Enfin, en fait, dans toutes les appellations qu'on donne de ces pays, ouais, c'est hyper violent. Et c'est des choses contre lesquelles je lutte aujourd'hui, enfin, que je veux plus employer, en tout cas. Même pays en train d'être développé vers quoi ? Vers un idéal occidental, en fait. Enfin, donc voilà. Donc j'avais cette vision, qu'on nous traîne, en fait, à l'école. Et voilà. Et donc, sur place, ça a été un peu le choc, parce que, oui, effectivement, l'Inde, c'est un peu la misère. Mais c'était aussi super beau, en fait. Enfin, justement, dans ce qu'on considère comme la misère, il y a énormément de projets qui se créent, de solidarité, de mobilisation communautaire, des trucs que nous, on n'a plus trop en France, qu'on a perdu. Du coup, ça m'a bien étonnée. Et puis après, au fur et à mesure des voyages, ouais, c'est ça, je pense, avec l'abeille, en tout cas, ce que ça m'a montré, c'est que les gens ont vachement de pouvoir sur place de créer, d'entreprendre, de faire des choses. Et du coup, je pense qu'avant d'y partir... J'avais ce truc de me dire oui, on va les aider, alors qu'en fait, non, clairement pas. C'est toujours les structures qui nous reçoivent sur place, qui nous aident, nous, à prendre conscience d'un monde qu'on connaît pas, de compétences qu'on n'a pas non plus. Et du coup, pour moi, les volontaires et les stagiaires que j'envoie, oui, ils apportent de l'aide, un peu, puisque forcément, c'est une aide humaine, ils ont peut-être quelques compétences techniques, enfin, il y a des compétences derrière. Mais pour moi, il y a 80%, c'est la structure qui va aider, quoi. Et du coup, ça a été cette découverte-là, en fait, je pense aussi. C'est ça, de la force du peuple, de la communauté, des mobilisations qui peuvent se créer. Et voilà.
D'accord. Alors, justement, par rapport à l'idée de vouloir développer les pays de l'hémisphère du Sud, qu'est-ce qu'il est plus approprié de dire, finalement ?
Je pense que ce serait, enfin, en tant que personne qui vient aider sur place, ce serait collaborer, co-apprentissage, co-échange. Enfin, en fait, c'est ça, c'est un échange. Il n'y a personne qui vient imposer quelque chose à l'autre. Et voilà, je crois qu'il faut arrêter avec cette vision du monde où il y a toujours quelque chose de supérieur et d'inférieur, ou qu'il faut aller vers un idéal, tendre vers quelque chose. Non, en fait, il y a juste, je crois, quelque chose d'assez horizontal et des pratiques qui s'échangent, qui font en commun et qui font qu'on peut créer des actions, quoi. Du coup, pour moi, c'est participer à des actions de solidarité, collaborer dans des projets communautaires, voilà. Mais il n'y a pas cette chose. Et là, pareil, tu dis pays du Sud. Alors, Sud, c'est Mignolo qui dit ça, c'est un sociologue latino-américain et anthropologue, et qui dit que même la notion de Sud a été imposée à un moment donné par l'Europe, qui s'est considérée comme le Nord, en fait, au XVe siècle, avant qu'on découvre l'Amérique latine, c'était positionné entre l'Afrique, du coup, et l'Asie, et petit à petit, c'est considéré comme le Nord, pour avoir ce truc de supériorité. En fait, dans la géographie du monde, tu comprends toutes les relations de domination qu'il y a. Et du coup, évidemment, l'Amérique du Sud s'est placée dans le Sud, puisqu'il s'agissait de la coloniser, de récupérer leurs ressources. Et après, évidemment, Afrique, Asie. Et donc, voilà. Donc, il y a ce truc de notion du Sud que je trouve encore hyper colonialiste. Et après, c'est difficile de l'enlever, parce que même aujourd'hui, dans les sciences sociales, on considère le Sud comme quelque chose, au final aussi comme quelque chose de positif, ça peut être des connaissances du Sud, et justement ça valorise des pays qui ont été racisés, qui ont été colonisés, etc. Donc voilà, je sais pas, il y a une ambivalence dans ce mot Sud, mais je crois qu'il faudrait juste parler de pays, en fait, et donner le nom du pays plutôt qu'un...
En fait, c'est pour ça que j'ai dit hémisphère sud.
Ouais.
Je pense que c'est un terme purement géographique aussi.
Ouais.
C'est que effectivement, dans les pays du Nord, on a des pays beaucoup plus riches qui ont beaucoup plus de moyens, mais qui exploitent grâce aux pays du Sud. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver d'autres noms, en fait, de manière à être dans un vrai respect, mais c'est vrai que les pays, généralement, vers lesquels on se dirige pour toutes nos actions humanitaires, c'est effectivement dans des pays où il fait plus chaud, dans des pays où, voilà, il y a moins de moyens, etc. Donc, à ton avis, comment on pourrait...
Je sais pas la solution, mais je crois juste que le langage, c'est un laboratoire. Que c'est hyper puissant et qu'on a tout le pouvoir de changer. Par exemple, tu vois, en ce moment, avec l'écriture inclusive, c'est en train de changer, et du coup, c'est une force, et ça a été proposé, je crois, dans le débat universitaire de base. Mais je crois qu'il faut lire beaucoup et voir comment. Pour le moment, moi, c'est juste ce que je propose, c'est d'appeler les pays par leur. Par leur nom, quoi. Mais ce qui est intéressant après dans ce truc de rester dans ce Sud, c'est que ça permet de visibiliser aussi des inégalités et des liens de domination. Si tu n'emploies pas ce truc Sud, du coup, tu ne peux pas visibiliser. Donc, c'est aussi intéressant de garder ce vocabulaire. Je ne sais pas. Donc, il faut peut-être le garder tout en ayant un esprit critique à chaque fois et en répétant que non, on ne considère pas, en cadrant sa pensée, quoi. Voilà.
Yes, d'accord. Et alors, j'imagine que lorsqu'on vit de telles expériences aussi jeunes, les croyances concernant l'argent et la sécurité ont dû pas mal évoluer. Alors, quelle perception pouvais-tu avoir de ces concepts avant tes expériences et comment elles ont évolué ?
Alors, moi, depuis que je suis petite, en fait, mon père a un voilier. Et donc, j'ai toujours eu ce truc de j'avais envie de voyager partout dans le monde en voilier et pas avoir d'argent. Et ou un minimum pour survivre, quoi, et vivre partout. Et donc j'ai toujours vécu avec cet idéal, en fait, et jamais avec ce besoin d'avoir de l'argent et du matériel, puisque justement je m'imaginais dans un voilier où tu ne peux basiquement rien avoir avec toi, enfin où le strict nécessaire, et où ça te sert pas à grand chose d'avoir de l'argent dans le présent, même si à un moment donné tu dois en avoir pour réparer des choses. Et donc non, mais après je pense que ça, au final, ça s'est installé au fur et à mesure de mes voyages comme un idéal, plus un idéal de vie justement, mais quelque chose qui peut se faire. Et donc en fait voilà, depuis que j'ai 18 ans, je travaille quand je rentre en France, je repars, je fais des volontariats sur place, donc souvent je paye pas le logement ou la nourriture, ou je monte des petits projets sur place qui me permettent de gagner de l'argent. Genre au Brésil, j'avais aidé mon ex-copain à créer une école de surf, donc moi je mobiliser des clients qui étaient sur Rio et des clientes, Et en même temps, après, je préparais de la nourriture végane que je leur proposais. Donc, ça me faisait un peu de sous pour... ça me faisait des sous pour la semaine. Je vendais des burgers véganes aussi sur la plage. Bon, voilà, j'essaie toujours de trouver un petit truc inventif dans mon présent auquel j'aurais pas pensé avant et qui me permet de gagner quand j'ai besoin, en fait. Mais après, évidemment, j'ai toujours une toute petite sécurité derrière qui fait que j'arrive à partir assez librement dans ma tête. Voilà. Mais j'ai pas du tout cet objectif de me dire dans ma vie je veux acheter une maison, je veux acheter quelque chose. Non, pour le moment en tout cas, je le vois comme ça. Je me vois assez libre justement sans avoir de dépendance à l'argent et au matériel. Donc,
D'accord, super. Alors en ce moment, tu écris un mémoire sur les genres en agriculture. Et hors antenne, tu me disais que la permaculture, qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, n'est pas un modèle viable pour notre société. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Voilà, je me fais piéger dans des conversations privées. Non, ce que je voulais dire par là, qu'on a eu cette conversation, je pense, c'est qu'il faut trouver des modèles d'agriculture qui soient assez efficaces pour que tout le monde puisse manger et que ça bénéficie pas juste à une certaine catégorie de la population et qu'une certaine catégorie de la population puisse avoir de la bonne nourriture, d'autres non, de la nourriture qui vienne d'un certain cycle qui respecte la nature, d'autres non. Enfin, en fait, ça crée encore des inégalités sociales. Et je crois que c'est ça le problème de l'écologie, en fait, même en règle générale. C'est juste pourquoi on s'intéresse à l'écologie et à l'environnement, parce que ça crée des inégalités sociales. S'il n'y avait pas de problème sur l'humain, on ne s'intéresserait pas tant à l'environnement. C'est parce qu'il y a des personnes qui vont être touchées par la montée des océans, par exemple, directement, bah, qu'on se dit « Ah mince, les océans arrivent, c'est parce qu'il y a des gens ». Bon, et bref, et tout ça pour dire que l'agriculture, voilà, je pense qu'il faut la connecter aux gens, c'est pour nourrir des personnes. Et donc, pour moi, la permaculture, c'est compliqué que ce soit viable, puisque ça demande énormément... Bah, en fait, je sais pas, en fait, en y repensant maintenant, je me dis pourquoi pas. C'est vrai que si on montait toutes nos sociétés en permaculture, qu'il n'y avait plus d'intensif, et toutes nos campagnes fonctionnaient en permaculture, en communauté et tout, qu'on faisait revenir les vides dans les campagnes, enfin, que ça s'inscrivait dans un énorme système comme ça, si, je crois que la permaculture peut complètement fonctionner. Je crois juste qu'elle ne fonctionne pas comme on l'utilise en ce moment, en tant qu'agriculture urbaine, super boboisée. Oui, il faut créer des projets de permaculture parce que c'est bien et que ça fait beau sur les papiers de subvention, etc. Mais qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose derrière, si c'est que pour un tout petit écosystème et pour presque personne, puisque c'est ça l'intérêt de l'agriculture, c'est de le revendre, plus, enfin, que ça finisse dans les assiettes des gens, quoi. Et donc, il y a ce truc entre bah, la permaculture et un tout petit système qui est un peu fermé sur lui-même, finalement, et une agriculture qui n'est pas forcément industrielle, mais plus conventionnelle, qui, elle, va permettre de bah, nourrir, en fait, la planète, quoi. Donc, je pense qu'il faut trouver des compromis, mais je crois que si, la permaculture peut être viable, mais voilà, dans un autre modèle de société. Et voilà.
D'accord. Alors, justement, puisque tu parlais de l'écologie, est-ce que tu vois parfois certaines croyances chez les jeunes par rapport à l'écologie qui arrivent justement sur le marché, qui veulent travailler dans l'écologie? Quelles vont être peut-être les croyances que tu vois le plus par rapport à ça? Je sais qu'une fois on avait parlé du fait que beaucoup de monde pense que l'écologie est accessible à tous, alors que pas forcément. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête?
Ben, pour moi, l'écologie fait les frais de chaque nouveau concept à la mode qui arrive dans le capitalisme. Tu as deux auteurs, deux sociologues qui s'appellent Eve Chapello et Luc Botanski, je ne sais pas si tu connais, qui expliquent comment à chaque fois qu'il y a une menace face au capitalisme qui arrive, qui peut être le féminisme par exemple, qui peut être du coup l'écologie, en fait cette menace se fait racheter par le capitalisme et du coup ils trouvent le meilleur moyen. Après, il n'y a pas de superstructure qui décide ça, évidemment, c'est juste... plein de trucs de la société qui font que, voilà. Mais qu'en fait, ça va se faire reprendre par le capitalisme et que ça va être refait à leur sauce et du coup, ça ne sera plus du tout considéré comme une menace. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, qui s'est passé beaucoup avec le féminisme, où du coup, c'est la commercialisation de la femme, de ce qu'est le féminisme, et on en oublie sa lutte. L'écologie, c'est un peu pareil, en fait, ça s'est fait racheter en greenwashing par plein de marques. Et on oublie ce que c'est, je pense, la base de l'écologie et qu'en fait, ça ne peut pas se faire partout. Enfin, pour moi, le capitalisme vert, il n'existe pas. Si on veut passer à une vraie société écologique, il faut changer de modèle de société, quoi. Et puis, comme c'est ce qu'on propose à tous les jeunes maintenant dans les écoles de commerce, bah, je dis ça, je travaille pour une école de commerce sur des cours pour le climat, donc moi aussi j'ai plein de paradoxes et d'ambivalences. Je fais du tutorat et des cours sur le climat. Mais voilà, j'essaie de montrer ça, en fait, que il faut qu'ils apportent une nouvelle image au commerce, une nouvelle image au capitalisme. Sans ça, sinon, l'écologie n'a aucun sens. Et je pense que c'est juste une façon de vendre et de faire du marketing.
D'accord. Et chez les jeunes, est-ce que tu vois certains idéaux ou certaines utopies, enfin, je sais pas, des retours de certaines personnes qui veulent s'engager dans ces milieux-là, avec qui ont déjà une conception peut-être un peu biaisée
Par exemple, là, j'ai un groupe d'étudiants à l'école de commerce qui voulaient, par exemple, remplacer, dire... En fait, ils partent sur le truc que oui, l'élevage intensif est mauvais pour la planète. Et parce que ça détruit l'Amazonie, etc. Donc oui, effectivement, je suis d'accord. Même en France, très pollueur, etc. Du coup, ils se sont dit, ah bah du coup, pour remplacer l'élevage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des élevages d'insectes. Puisque du coup, c'est plus du tout pollueur, ça demande beaucoup moins de ressources, et puis ça permet aux humains de nourrir la planète. Et du coup, ils avaient un peu pour idéal ce truc, en se disant, ben voilà, c'est super, on va remplacer l'élevage et tout coup l'agriculture française par ça. Et du coup, je trouve ça super triste, parce que ça enlève de se concentrer que sur ce truc environnement, en oubliant tout ce qu'il y a derrière de social, de valeur humaine. Enfin, l'élevage, c'est quand même des gens connectés à leurs vaches. Il n'y a pas que de l'élevage intensif, il y a du bon élevage, même si je suis végétarienne, je suis pour l'élevage. Il y a des paysages qui sont connectés à ça, donc même géographiquement, des histoires qui ont été construites avec l'élevage. On peut pas imposer des normes environnementales juste par idéal en se disant « Ah bah oui, du coup, l'élevage, c'est pas bien, hop, on remplace tout. » Enfin, du coup, je trouve que ça enlève complètement l'histoire, ça enlève l'humain. Et je crois que dans ces projets environnementaux à grande échelle, bien souvent, il y a ça aussi. On oublie tout ce côté humain, et il n'y a pas que l'environnement, quoi. L'un va pas sans l'autre. Et voilà, donc je sais pas, là c'était un petit exemple, mais c'est souvent des petits trucs comme ça, je crois, qui...
Super, oui, non, ça, c'est qu'on est tous interconnectés, en fait, tout est interdépendant, donc si on s'intéresse, bon, par exemple, parce que je travaille dans la préservation des forêts, alors voilà, on part avec cette idée de préserver les forêts, mais déjà, il faut regarder ceux qui habitent les forêts avant de vouloir sauver les arbres. et donc, sans, en fait, leur vision... aussi des choses, donc c'est pareil avec les éleveurs, sans aller discuter avec eux, je pense qu'on va pas très loin.
Ouais, et encore plus que ça, pas que les personnes qui y habitent, genre pourquoi on déforeste, pourquoi on maltraite la forêt, et là pareil, pourquoi on va maltraiter les terres, enfin, il y a quelque chose derrière, c'est parce qu'il n'y a pas forcément d'argent dans le territoire, ou qu'il n'y a pas de subventions qui sont données, ou qu'il n'y a pas de politique sur ça. Et je crois que c'est là qu'il faut aussi aller critiquer et pas prendre que le problème à voilà, le problème c'est si ça crée de la pollution. Non, enfin, derrière il y a toute une dynamique structurelle qui engendre ça. Et c'est là où il faut regarder. Enfin, les gens n'ont pas envie de détruire l'environnement pour le détruire. Enfin, je pense qu'il y a peut-être 0,1% de la population qui est comme ça. S'ils le détruisent, bah, c'est parce qu'il y a des... Ils trouvent leur intérêt derrière et leurs besoins. Et pour la plupart, ils n'ont pas le choix, quoi. Et même si on a toujours le choix, mais ouais, je crois que c'est ça aussi.
Alors, dernière question que j'aime bien poser en fin de podcast. Penses-tu, Julie, que nous sommes illimités ?
Alors, je crois que oui et non. On est illimité dans notre manière de Ouais, si, à notre manière de penser, de pouvoir créer, d'imaginer des mondes. Enfin, en fait, l'imagination, elle est plutôt illimitée. On se sent illimité, mais après, je crois qu'on est toujours limité par quelque chose. Enfin, on est limité parce qu'on vit sur une planète, qu'on vit dans un univers. Enfin, il y a quand même des limites à tout. Et je pense que c'est impossible de dire qu'on a pas de limites. On est même limité par la société, la structure de la société, des croyances qu'on nous impose. Et je crois que c'est en reconnaissant justement ces limites qu'on va agrandir le champ de le champ de ses limites et nous permet d'être un peu plus illimité, mais tout en étant toujours en étant cette limite, quoi. Donc voilà, c'est cet interjeu entre la limite et l'illimité.
Génial, génial. Julie, merci.
Merci.
J'espère que ça aura inspiré plus d'un et plus d'une.
Merci. Bonne journée à tous.
Bonne journée. Ciao.
Et toutes.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt.